décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 11, salut Manu.
Salut Luc.
Bon, nous sommes encore que tous les deux cette
et
semaine.
Oui. Donc, on va faire un sujet de vieux cons.
Voilà. On est deux. Et donc, avant ça, le sommaire.
On a 7 articles cette semaine.
Le Telegram défie une association avec plusieurs missions. Un article de la rédaction.
Donc, c'est une association qui présente le logiciel libre. Donc, il y en a plein qu'on
un
connaît.
Un GUL, comment on appelle ça?
Un GUL, effectivement. Voilà. Un groupe d'utilisateurs de logiciel libre.
Le genre de travail de terrain qui fait la différence. Bravo.
Et donc, ils ont un joli article.
ZDNet France. Une vulnérabilité découverte dans le système de vote suisse pouvait modifier l'issue du vote. Un article de Cataline Simpanu.
Donc c'est du vote électronique et c'est pas un nouveau sujet chez nous. On en a déjà parlé, notamment parce qu'en Suisse, ils utilisent du logiciel privateur, c'est Rajan. Malgré le fait qu'ils étaient à peu près sûrs que c'était très sécurisé, donc ils ont demandé de faire des tests sur ce logiciel. Et donc, ils se révèlent qu'il y avait des failles. Oh, comme c'est bizarre. Alors bon, c'était difficile à utiliser, hein, vraisemblablement, mais c'était quand même une grosse faille. Ils vont la corriger. Juste, ce serait mieux que si c'était en logiciel libre. Ce serait moins pire.
L'Obs, et si l'Europe défendait sa souveraineté numérique face aux GAFA, un article de Thierry Noisette.
Donc c'est le gros sujet, hein. Il faut taxer, il faut bloquer, il faut s'assurer que les GAFA arrêtent d'embêter les citoyens et les institutions aussi, parce que c'est pas pratique. Donc il y a pas mal de sujets là-dessus, mais je pense qu'on en parlera dans les
semaines
qui
viennent. Beaucoup parlé ces dernières semaines.
On en a parlé pas mal.
Reporter, le quotidien de l'écologie, amer, déçu, enthousiaste, vos avis sur le grand débat national, un article de la rédaction.
Donc le grand débat, qui utilise deux logiciels privateurs, donc on n'est pas enchanté de ça, mais qui a beaucoup fonctionné.
Et voilà, et pour compiler des millions de réponses, hein, donc le reflet qu'on aura de ces contributions sera celui donné par le logiciel, donc l'enjeu est important. Next Impact, directive droit d'auteur, notre schéma pour comprendre l'article 13, un article de Marc Ress.
Donc l'article 13, il y a aussi le 11, même si ça évolue, c'est des choses qui veulent contrôler le droit d'auteur en Europe, sur Internet notamment.
Et surtout la question des gros sous.
Et là, carrément, avec Google, c'est en gros une taxe Google qui est en train de mettre en œuvre sous une autre forme. Donc c'est très compliqué, tellement compliqué, Next Impact a fait un petit schéma pour essayer de dépatouiller tout ça. C'est le bordel, on n'aime pas, donc on se bat contre ça.
L'ADN, 30 ans du web, le revenge porn et les cyberattaques ne sont pas nouveaux. Un article de Marine Protet.
On en reparle juste après.
Ouais. El Watan, l'ESS est une économie du réel et de plus équitable. Un article de la rédaction.
Donc là, ça parle d'un fondateur d'une institution, Forum International des dirigeants de l'économie sociale et solidaire. Et donc, il y a pas mal de choses intéressantes, parce que l'économie et le logiciel libre, il y a des choses, je crois qu'il y a des livres, il y a des discussions qui sont autour de tout ça. Bon, des choses à creuser, notamment si vous êtes dans l'économie sociale et solidaire.
Très bien. Et en plus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un article d'Afrique du Nord. Donc ça fait,
oui,
c'est cool.
C'est pas mal. Donc on revient sur le sujet...
Les 30 ans du web, c'est quand même pas rien.
Exactement, c'est un truc considérable. Il y a pas mal d'articles cette semaine, il y en avait déjà la semaine dernière, il y en aura peut-être encore la semaine prochaine, parce que 30 ans du web, c'est important.
Le père fondateur du web, c'est Tim Berners-Lee.
Sir, Sir, Lord.
Lord, donc il a été lordifié en Grande-Bretagne. C'est un
anoblisé, anoblisation,
anobli.
Anobli, c'est bien aussi.
Enfin bon, bref. Désormais, il en est. Donc c'est lui le créateur du web.
Donc un chercheur au CERN à l'époque.
Mm-hmm.
Et effectivement, il avait besoin d'échanger des documents avec des confrères notamment. Et il a inventé tout un protocole et une manière de l'utiliser. Donc ça date, les années 90.
Oui. Alors, le web, ça n'est pas Internet.
Alors il y a un article qui en parle. Le fait que le web n'est pas Internet, mais qu'il a avalé Internet. Donc Internet, c'est quelque chose de plus conséquent, ça date de plus d'années, notamment c'est les militaires et les universitaires américains qui l'ont inventé avec DARPANET à l'origine, qui reliait les universités entre elles et qui avait pour but de résister à des attaques nucléaires.
DARPANET, non ?
ARPANET, oui, peut-être oui. ARPANET, oui. Internet, donc, c'est un réseau de réseaux. Donc, c'est juste des mises en relation entre elles. Et ce sont de plusieurs protocoles, plusieurs systèmes qui peuvent discuter entre eux. On peut en parler rapidement. Il y avait des choses comme le BBS, les Usenet. Il y avait plein de protocoles de mail qui fonctionnaient très bien sur Internet.
Et qui fonctionnent toujours.
Et qui fonctionnent très
bien. En tout cas, pour
toujours.
Le mail, ça marche toujours encore pas mal.
Du feu de Dieu.
Oui.
Et donc, là-dedans...
Les BBS, c'était des messageries en cascade, hein, sur un principe hiérarchique, de partage. partage d'infos.
Et donc le Usenet, voilà. C'était dans le même thème, mais il y avait des protocoles dédiés à faire du Usenet.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, dans son abonnement, il fallait un abonnement avec Usenet.
Avant, c'était le cas. Les abonnements étaient fournis avec, c'est plus trop le cas maintenant. Ce qui veut dire qu'on n'a pas d'abonnement Internet aujourd'hui.
On n'a pas cette partie-là d'Internet qui était une partie considérable à l'époque. Ouais.
Alors il y a d'autres protocoles comme le FTP qui permettent de télécharger des fichiers sur un serveur distant ou des choses comme ça. Donc c'est souvent aujourd'hui des trucs assez techniques.
Oui. Et souvent ça, la limite, c'est qu'il faut un logiciel spécial, souvent, pour utiliser un protocole spécial. Et finalement, le protocole qu'on utilise le plus aujourd'hui, ou en tout cas qu'on connaît, qu'on reconnaît le plus, c'est celui que souvent on associe avec www.
Alors ça sert à quoi ces 3W qu'on met devant les adresses?
C'est plus une convention qu'autre chose. C'est pour indiquer qu'on est en train d'accéder à un serveur web, donc à une page, en général, en fait, en HTML, qui va être affichée dans un navigateur web, le premier étant...
Je ne sais plus.
Tu ne sais plus? Ah, tu...
Netscape? Non, il y en avait un.
Juste avant Netscape, il y en avait un qui s'appelait Mosaic.
Mosaic, c'est ça. Et en fait, je l'ai utilisé, mais on garde la partie vieux con pour tout à l'heure.
Donc, le web permet d'accéder à des serveurs. Donc, on met www ou pas, parce que finalement, ce n'est pas une nécessité. Ça permet de partitionner et d'utiliser plusieurs serveurs, par exemple. Donc, on peut avoir un www1, www2 ou autre chose, des sous-domaines, d'une manière ou d'une autre.
En gros, c'est une façon de découper le serveur vers lequel on se connecte quand on va sur Internet. Quoi.
Exactement. Mais quand on a un petit serveur, ce n'est pas vraiment nécessaire. Quand on a un petit service, on n'en a pas besoin aujourd'hui.
Et aujourd'hui, tout ça, c'est complètement obsolète. Il n'y a plus besoin de mettre des 3W dans les adresses.
C'est plus nécessaire. De la même manière, le HTTP, donc, qui est la partie plus protocole, ou HTTPS, là aussi, si on ne le met pas, ça peut souvent être complété par son navigateur, ou c'est caché par le navigateur dans certains autres cas. Donc, mais ça, c'est pour aider, parce que ça n'empêche, c'est bien présent, c'est toujours là, en fin de compte, en arrière-plan.
Donc le web, hein, c'est ce qui s'affiche dans le navigateur, donc c'est pages avec des liens qu'on peut cliquer, des images, toute une série de choses.
Et donc le web a mangé Internet, parce que avec son navigateur, on peut faire d'autres protocoles.
Tout à fait, et faire plein de choses. Bon, typiquement, le webmail, hein, ça veut dire qu'on a dans un navigateur web son mail, alors qu'on peut avoir également des applications, ce qu'on avait initialement qui existe toujours.
Ça marche aussi avec les transferts de fichiers.
Voilà, le FTP. On a des applications qui ne font que ça, puis on peut avoir des applis à l'intérieur d'un navigateur.
On peut faire du chat sur le web.
Tout à fait, alors qu'avant, on avait IRC, qui existe encore, avec des applications, encore une fois, tout à fait spécialisées.
Et globalement, tout a été mangé, c'est-à-dire que tout peut fonctionner dans le web, mais... Le web n'est pas Internet et Internet n'est pas le web.
Ouais. L'un contient l'autre. Le web est important parce que c'est lui qui a vraiment marqué le démarrage de son succès public, puisque les premiers protocoles d'Internet sont arrivés très tôt, dans les années 80, même 70. Et le web, c'est un truc qui a marqué l'époque, qui vraiment, c'est devenu concret pour les gens. Laurent Chemla, qui est un des pionniers d'Internet en France, a écrit il y a fort longtemps un bouquin qui s'appelle « Je suis un voleur ». Et dedans, il avait expliqué que lui était fasciné par Internet depuis un bon moment, et que tout le monde s'en foutait royalement parce que c'était des trucs techniques, etc.
Des trucs de geek.
Et que quand le web est arrivé et que les gens ont dit « Ah, mais il y a des images », alors soudain, c'est devenu absolument passionnant. Et lui, il était toujours un petit peu consterné en disant « Mais je vous le dis depuis des années », mais qu'il a fallu que les images arrivent sur l'écran pour que ça devienne intéressant.
Alors, petit détail, c'était des images de chatons, bien sûr.
Oui.
Parce que je vois pas ce qui pourrait commencer à attirer l'attention, surtout au début d'un nouveau média.
Voilà, faut bien admettre que la pornographie a été quand même un truc qui a lancé le truc, en tout cas généré de l'intérêt, mais pas que ça, il y a plein de choses. Voilà, avant, les pages internet, on y accédait avec un modem RTC, donc un machin qui faisait de la musique, là.
Oui, un espèce de drôle de bruit métallique.
Et avec des liens bleus sur des pages grises, c'était quand même très très moche.
On payait à la minute.
Oui, puisqu'il fallait un abonnement et se connecter par téléphone, on payait sa communication téléphonique.
Oui, donc on passait par France Télécom, à moins d'être un chanceux qui était à l'université et qui passait par les machines de l'université. Donc on utilisait un réseau qui s'appelait Renater.
Oui, qui était le réseau universitaire.
T'en as profité?
Très très peu. Moi, c'était vraiment pour tester avant de m'abonner. Notre article sur lequel on voulait revenir, là, il disait « c'était pas mieux avant ». Donc, tous les trucs qu'on reproche à Internet aujourd'hui...
Et Dieu sait qu'on y reproche plein de choses à Internet.
Toutes les semaines, tu dis « Dieu sait ». Tu es en train de faire une crise de mysticisme, je pense. Donc, l'article, il y a une historienne qui se penche là-dessus et qui dit qu'il y a plein de phénomènes qu'on décrit aujourd'hui, qui existaient déjà avant. Bah, notamment le harcèlement, le revenge porn, tous ces trucs-là. Elle dit que ça se faisait...
Le spam, les flémoires, les guerres enflammées, on va dire.
D'ailleurs, pour l'histoire, c'était avant le web. Mais le premier spam, que j'avais lu ça quelque part, le premier spam reporté, c'était quelqu'un qui, sur Usenet, donc des protocoles pour faire des discussions, quelqu'un avait fait un robot qui faisait du négationnisme sur le génocide arménien. Et donc, évidemment, c'était tout en anglais. Et donc, dès qu'il voyait le mot « Turquie », donc en anglais, hein, il envoyait un message automatiquement en disant « Non, il n'y a jamais eu de génocide arménien par les Turcs ».
Sauf que le mot « Turquie » est un mot...
Eh bien, à Thanksgiving, ça sort beaucoup, parce qu'en fait, ça désigne aussi la dinde. Et donc, il y a des gens qui parlaient de la dinde qu'ils allaient bouffer. Et là, le message je disais non, il n'y a jamais eu de génocide arménien. Donc voilà, c'était partie du folklore.
Donc là, premier spam automatique. Je crois qu'il y a eu des spams, mais manuels, encore avant cela, où des gars ont envoyé des mails à plein de gens qui n'étaient pas concernés par ces mails-là. Donc en gros, ils n'avaient pas sollicité ce mail-là, ils n'étaient pas contents.
Tout à fait. Alors en fait, bon, quand même dans Internet, au début, il n'y avait pas la prédominance du business et du pognon qu'on a aujourd'hui.
Notamment parce que c'était des universitaires qui discutaient sur Internet.
Oui, puis même au début de l'Internet grand public. Je me souviens, moi j'avais un pote au début des années 2000 qui travaillait chez France Télécom, et tous les ans, il nous disait « Non, mais cette année, le business sur Internet, ça va vraiment démarrer. » Et tous les ans, il disait « Non, mais en fait, Minitel continue à faire plus d'argent. » Et donc, il a fallu un petit moment. Et effectivement, à l'époque, on n'avait pas tous les enjeux publicitaires et avec tout ce pognon. Mais les gens restent les gens, hein, donc il y avait des gens qui se foutaient sur la gueule, des extrémistes, il y avait tout ce qu'on voulait sur Internet.
Mais ça, c'est ça qui est rigolo. Je trouve, c'est qu'effectivement, on a tendance à penser qu'aujourd'hui, c'est pire que ça ne l'était avant, et qu'avant, on était plus civilisés, plus intelligents, plus respectueux des autres. Mais ce respect, non, il ne s'est pas perdu. Il n'était pas vraiment dès le début. Mmh. Les points Godwin, ce n'est pas une invention récente. Je rajouterais que Internet a rencontré ces problèmes-là très tôt, a trouvé des solutions techniques. Par exemple, les émoticons. Les émoticons, ce sont des moyens d'éviter de rentrer tout de suite dans l'art de la personne avec laquelle on discute, en indiquant par un petit clin d'œil, par un petit sourire, qu'on est en train de blaguer, qu'il faut bien le prendre, qu'on est gentil. Et donc, c'est un moyen d'essayer d'éviter ça, mais ça marche pas toujours.
Et oui, c'est une des faiblesses connues, hein, c'est que par écrit, surtout quand on écrit vite dans une conversation, il y a toute une série de subtilités dans ce qu'on pense, dans le ton qu'on veut donner, qui passe pas nécessairement, parce qu'on prend pas le temps d'écrire vraiment, vraiment bien.
Donc il y a des évolutions qui font qu'on essaye au contraire de mieux gérer cela, et je pense que j'ai l'impression que les flémoires, les guerres enflammées qu'on avait dans les années 80 sur Usenet, par exemple, ont peut-être un peu diminué.
Mais moi, je pense pas. Pour moi, la problématique, elle est commerciale, non commerciale. Bon, il y a aussi la surveillance d'État, qui est encore un sujet complètement à part entière. Mais à partir du moment où on a des quantités de pognon énormes qui arrivent dans le truc, genre Facebook et enfin les GAFAM en général, ça va orienter les choses. Moi, je sais que dans les années 2000, il y a un truc qui m'avait marqué. Je m'intéressais à Star Trek, donc la série. J'avais regardé un certain nombre de choses, ce qui m'a permis de progresser en anglais. Et à l'époque, on trouvait plein de sites, parce qu'il y avait plein de fans, hein, c'est un truc de geek, hein, donc il y avait en anglais plein de sites qui parlaient de Star Trek et qui avaient fait des encyclopédies sur Internet et tout ça très très tôt. Et j'y étais retourné avec un pote quelques années après, et en fait, tous les sites avaient été flingués ou alors étaient ridicules.
Caviardisés, on pourrait dire.
Et il y avait quasi plus de pages, et puis à chaque fois, c'était que des liens vers le site officiel de Star Trek. Et donc, à cette époque-là, en gros, juriste de Star Trek, qui gérait la licence, hein, les ayants droit, avait dit, toute navigation, n'importe qui doit arriver chez nous, parce que c'est notre pognon, et donc on veut pas laisser qui que ce soit créer quoi que ce soit sur notre bébé, c'est même pas leur bébé, c'est pas eux qui l'ont créé, mais sur notre capital, en quelque sorte, et donc on doit transformer toute velléité à s'intéresser à Star Trek en une visite sur notre site avec l'espoir de leur vendre des trucs.
On pourrait rajouter que ce genre de bataille-là s'est faite sur les noms, et que quelqu'un qui voulait avoir un nom de domaine qui ressemblait d'un peu trop près à un autre nom déjà officiel, il se faisait flinguer, on se faisait virer. Ouais.
Tout à fait. Alors, ils ont fait marche arrière sur Star Trek, parce qu'ils ont compris qu'il fallait laisser les fans respirer, vivre leur truc, etc., pour que la licence et que leur poule aux œufs d'or continue à vivre. Ça reste aujourd'hui compliqué. Il y a un projet qui s'appelle Axanar, on n'a pas le temps d'en parler, mais si ça vous intéresse, allez voir ça, Axanar, et qui est pour moi très très intéressant sur ce truc-là. Bon, voilà, moi, c'est un de mes vieux souvenirs. Après, moi, je me suis abonné à Internet en 97. Toi, tu as commencé beaucoup plus tôt.
Début des années 90, à l'université à Glasgow, donc l'université de Strathclyde, et effectivement, on avait des connexions Internet, toutes pourries, en ligne de commande, avec des consoles. Alors, finalement, c'est ce que je continue à faire sur mon ordinateur, si vous voyez un peu ce que j'ai à l'écran, c'est rien d'autre. Mais à l'époque, c'était un petit peu plus rude, il fallait apprendre les commandes, on ne savait pas comment ça marchait, on ne comprenait pas les tenants, les aboutissants, mais ça permettait de faire des choses, de jouer à des jeux. On faisait des donjons et dragons en mode de texte, par exemple, et on pouvait discuter à l'étranger. Je me rappelle de co-étudiants qui discutaient avec des Chinoises, des Taïwanaises. Ils draguaient, en fait, à distance. C'était assez rigolo.
Des potentiels, parce qu'en fait, tu ne sais pas qui t'es en face.
Oui, c'est la vieille expression. On the internet, nobody knows you're a dog. Personne ne sait qu'on est un chien sur Internet. On peut discuter avec n'importe qui sur Internet. C'était le cas à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui.
Bon, alors, est-ce que pour toi, Internet, c'était mieux avant ou pas?
Alors, je pense que ça, c'est une vieille expression que j'entendais déjà dans les années 90. J'avais des profs, des vieux barbus qui nous disaient « Oui, mais là, vous comprenez, avec tous les noobs qui arrivent, ils ne connaissent pas la netiquette, ils ne savent pas comment se comporter, il faut tout leur apprendre. » Et donc, c'est le bordel. Et on nous disait ça dans les années 90. Donc aujourd'hui, on arrive en 2020, Bientôt, eh bien, bah, tous les noobs qui sont sur Internet sont nombreux, bien plus nombreux. Il n'y a rien qui change. Les anciens, les vieux se plaignent des jeunes qui ne connaissent pas et qui n'inspectent pas leurs anciens. Il n'y a rien qui bouge.
Moi, je pense qu'il faut savoir se trouver, comme dans le monde physique, il faut savoir se trouver ces petits coins où on est bien, entre gens sympas. Parce que, oui, il y a plein de coins où on est pourri, soit par des gens pénibles, soit par des grosses machines commerciales. Donc Facebook, qui a eu tout intérêt à laisser les trolls et les news pourries se déployer parce que ça faisait des clics et ça faisait gagner de l'argent.
Ça les arrange, alors pas mal, effectivement.
Et donc, il faut se cultiver son petit environnement et puis travailler à le garder propre et pour pouvoir avoir une vie numérique sympa entre gens de bonne compagnie.
Donc, je vous souhaite une bonne compagnie sur Internet et à la radio.
Oui, et bonne semaine à tout le monde.
À la semaine prochaine.
Salut.